Bonjour, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Méga. Dans notre émission Underscore, j'ai encore une blague bronne à vous faire. Quand on est geek, on ne se refait pas.
Eh ben ouais, attends, elle a encore des blagues à deux balles.
Des blagues drones ?
Des blagues drones !
Oh lol.
Bonjour, Cécile. Bonjour, Mumu Man.
Bonjour, Roudoudou.
Bonjour, Cécile. Les auditeurs, bonjour, Mumu Man. Et bonjour, Roudoudou. Effectivement. On va pas vous manquer d'air parce que là nous allons sortir faire un peu d'espace parce que effectivement il fallait un petit peu s'intéresser à ce qui se passait pas que dans nos assiettes ou que devant notre clavier parce qu'effectivement souvent dans votre clavier vous avez plus de bouffe que dans votre assiette ou que de touche aussi.
Oh, peut-être pas quand même, mais...
Mais voilà, on va vous parler de l'agriculture connectée.
C'est un beau sujet, ça.
Mais tout de suite, l'actualité.
Qu'est-ce qu'on a à l'actu ?
Amazon veut concurrencer Spotify et Apple Music.
Oh là là.
31 collectivités récompensées par un label Territoire Numérique Libre 2019. Pour ce label, initiative de l'Adulac, Grenoble obtient le label niveau 4, Saint-Martin-du-Riage niveau 3. On cherche désespérément une ville dromoise dans le classement.
Le LiFi arrive bientôt, enfin bientôt. Ça fait une dizaine d'années qu'on en parle. Vous savez, alors, pour ceux qui ne savent pas, le LiFi, en fait, c'est comme le Wi-Fi, mais avec de la lumière visible. Est-ce que le Wi-Fi, c'est des ondes radio, mais qui ne sont pas dans le spectre visible, et la lumière, c'est le spectre visible. Donc, on devrait avoir des choses en 2020 dans les avions. On attend de voir. Ouais, de voir.
Mais oui.
Un premier clavier AZERTY Plus chez LDLC. Une norme AFNOR NF-Z71-300 d'avril dernier a modifié légèrement le clavier AZERTY pour inclure des signes typographiques manquants et aussi déplacer quelques caractères.
Ouais, ils ont viré mon CCDille.
Et on a enfin un premier clavier sérigraphié à cette norme.
La prochaine mise à jour de Windows refuse de s'installer avec de vieux antivirus, le but étant de forcer les utilisateurs à mettre leurs antivirus à jour avant. Pas sûr que ça fonctionne.
Mozilla bannit les extensions Firefox d'Avast et AVG, car elles récupéreraient bien trop de données. Tiens donc.
La Free Software Foundation certifie les cartes mères PowerPC Talos 2. Elles respectent vos libertés en ne requérant pas de blob propriétaire.
Ouais, par contre, elles sont un peu chères quand même. Mais ça dépote. Hein. Il y a deux processeurs, je sais plus, 4 cacœurs ou un truc comme ça. C'est pas mal.
EDF et Enedis condamnés pour une surfacturation causée par Linky. La facture de Gilberte Morel, une habitante d'Arras âgée de 84 ans, avait été multipliée par 5 depuis la pose du Linky. Elle aura fait un procès et a gagné, mais elle continue de couper le disjoncteur tous les soirs au cas où.
Oui, si elle ne se chauffe pas, oui, ça va moins consommer. La CNIL condamne Futura International à 500 000 euros pour démarchage téléphonique illégal et elle a constaté 5 manquements au RGPD.
En Allemagne, la CDU veut rendre obligatoire le logiciel libre lorsque le développement est financé par de l'agent public. C'est juste ce que demande la FSFE depuis un moment déjà.
C'est une belle initiative, non ?
Ouais.
Déjà 1 million de produits dans Open Food Fac. D'ailleurs, le projet se dote d'une équipe à plein temps.
8 utilisateurs d'Ordiphone sur 10 conservent le navigateur préinstallé, d'après le baromètre numérique de l'ARCEP pour 2019.
La CNIL publie son registre RGPD. Elle souhaite montrer l'exemple en s'appliquant à elle-même ce règlement. Donc pour montrer un peu comment faire les choses.
Bien sûr, elle montre l'exemple.
Eh ouais.
Petite pause musicale, on se retrouve pour notre sujet de jour sur l'agriculture connectée.
We'll be right back.
Eh bien, Noise Factor Summer 1989.
Ah.
C'était bien, hein. On se croirait presque en été. Alors qu'on est en plein mois de décembre et qu'il fait froid dehors. Il fait très froid, surtout quand t'as le vent qui te souffle dans les branches et tout.
Et puis il y a de la neige dans les champs.
Bah oui.
Bah oui.
Bah il paraît que les nappes phréatiques elles sont un peu pas pleines encore.
Pourtant il y a plu, hein.
Ouais, c'est vrai qu'il a plu. Mais bon voilà, les agiculteurs comme certains les appelleraient seront peut-être intéressés d'écouter notre émission. Pour ceux qui n'ont pas encore découvert ce genre de choses, se rendront peut-être compte cette semaine qu'on va parler de quelque chose qui touche toute la population, c'est-à-dire ce qui est atterri dans nos assiettes, à savoir que à l'ère numérique aujourd'hui, certains domaines sont aussi touchés par ce phénomène de la numérisation, à savoir l'agriculture. Elle subit en permanence les évolutions et adopte aujourd'hui des manières de produire calquées à notre mode de vie. Donc oui, ton agriculteur, il a aussi un smartphone, hein.
Ouais.
Et à l'ère numérique, nous allons voir ensemble les outils, les méthodes et les conséquences sur l'usage des outils technologiques dans ce domaine si primaire, effectivement, et qui nous permettent tous de manger, donc de vivre. Il apparaît essentiel que l'informatique et les outils technologiques ont toujours eu une place de choix dans le domaine de l'agriculture. D'abord, ils sont soumis à des contraintes environnementales, hein, les agriculteurs, à savoir, quel temps fait-il ? C'est un paramètre tellement important. D'où leur intérêt pour les prévisions météorologiques, hein, dans des abonnements professionnels. Et donc, ce sont les premiers clients de ce type de service. Mais après la pluie, le beau temps, est inutile de se pencher sur la question en quoi aujourd'hui Internet a-t-elle changé leur mode de production ? Et en quoi surtout les objets connectés sont en train d'apporter une révolution vers une ferme 3.0, comme certains l'appellent. Donc, une définition proposée par le rédacteur du magazine dédié à l'agriculture connectée serait un ensemble de technologies et de services qui permettent de faire fonctionner un ensemble d'outils de la ferme ou qui sont utilisés par ces mêmes outils par un lien non mécanique. Cela fait quelques années que dans le monde agricole, nous utilisons des outils informatiques pour aider à prendre des décisions. Ce qui commence à émerger, c'est la capacité à les faire fonctionner les uns avec les autres. En fait, c'est un peu comme sur le principe d'une fourmilière, où chaque objet connecté va permettre une cohésion d'un ensemble, en fait, et permettre souvent une décision, un outil d'aide à la décision pour les agriculteurs. Alors effectivement, les IoT sont dans les prés. Si vous avez déjà entendu des technologies LoRa ou Sigfox, ce sont des dispositifs capables d'émettre sur de longues distances, à savoir à peu près 10 km. Et ils utilisent des bandes de fréquences radio sub-gigahertz sans licence. Ils disposent de fonctionnalités de géolocalisation permettant de trianguler les positions périphériques via les horodatages des parcelles.
Passerelles,
ouais.
Il y a les passereaux et les passerelles.
Voilà, les passerelles. Alors, les outils qui sont présents dans les objets connectés en manière générale, on en trouve un peu partout, notamment dans les tracteurs.
Ouais, ça existe déjà. Hein.
Ça existe depuis.
Les tracteurs avec le GPS intégré qui te dit tu tournes maintenant.
Ouais. Ça existe depuis un moment, mais c'est vrai que la géolocalisation est de plus en plus précise. Ouais. C'est un outil clé aussi en agriculture qui est utilisé dans les applications, effectivement, de savoir comment tu vas tirer tes lignes droites, hein, parce que non, il n'a pas forcément que l'œil. Hein.
Mais il y en a même des tracteurs déjà qui conduisent tout seuls. Alors, dans le champ, c'est moins dangereux que sur une autoroute, mais ça existe déjà.
Ouais, il faut s'imaginer que finalement, la voiture autonome sur la route, elle existe déjà dans ton champ.
Alors, il me semblait que c'était plutôt des tracteurs en mode esclave. Il y a par exemple 10 tracteurs d'un coup, il y a un chauffeur dans un tracteur
et, les autres suivent,
et tous les autres ils sont à côté comme une formation d'oiseaux en fait.
Alors, il y a ça aussi, effectivement, qui suivent en formation. Mais il me semble bien en avoir vu qui. Enfin, pour la ligne droite, quand tu arrives au bout de la ligne, il faut reprendre le volant pour tourner ou un truc comme ça. Mais il arrive à garder la ligne droite, en fait.
Puis après, de toute façon, il y a des fossés, donc au pire,
normalement, il n'y a personne autour.
Voilà, il ne déborde pas.
Non. Et puis, vous avez aussi les puces RFID qui sont très utiles dans ces domaines pour les outils au quotidien. Et aussi, les vivants, le vivant aussi est très connecté, hein, à savoir le bétail, équipés de colliers. Vous imaginez que l'agriculteur, il reçoit un SMS, ah, votre animal est malade.
Ouais, bientôt, hein. Ouais.
Ça doit être...
Avec des capteurs température et tout ça.
Ouais, ouais. Même, il y a moyen aussi de géocaliser les animaux, ce qui fait que quand ils sont à l'extérieur, l'agriculteur...
Tu sais où les chercher.
A effectivement un œil sur le bétail. Ouais. Et il arrive, certaines espèces, quand ils sont malades, ont des capacités de pouvoir s'éloigner du troupeau. Mmh. Et à ce moment-là, c'est une donnée qui va pouvoir alerter l'agriculteur en disant attention.
Celui-là, il reste tout seul, peut-être qu'il est malade.
Peut-être qu'il est malade finalement. Donc voilà, c'est encore un outil supplémentaire pour justement permettre la surveillance des animaux. Non, pas vous, hein, mais vraiment du bétail. Mais non, on n'est pas des moutons avec nos objets connectés au quotidien. Et puis, vous avez les traceurs dans les colliers. Donc après, souriez, vous êtes filmé, hein. Après l'usage des images satellitaires, les drones sont venus prêter main forte aux agriculteurs. Et ça, c'est bien parce que c'est précis. Ça permet aussi d'apporter l'engrais sur certaines cultures et de manière très affinée, puisque les drones ont la capacité de pouvoir vraiment prendre en photo avec précision chaque parcelle. On a déjà un recul de 10 ans, hein, sur l'usage des drones. On a par exemple dans notre région...
Il y a Carbon Bee dans le coin, ouais, effectivement, qui fait ça. Et, typiquement, sur un champ, effectivement, la couleur des feuilles des plantes qui sont dans le champ change en fonction de l'humidité et tout. Et du coup, s'il y a une tache vue d'en haut, on peut se dire qu'à cet endroit-là, peut-être qu'il manque d'engrais ou de flotte.
Donc là, ça permet vraiment aux agriculteurs d'avoir une précision la répartition des engrais ou des pesticides éventuels qui seront appliqués au niveau de leur champ. Et ça peut être aussi un gain économique. Hein. À ce niveau-là, on n'est pas avare d'économie en termes de pollution. C'est vraiment intéressant puisque tu vas pas faire que poser des engrais partout un peu... reproduire justement ces schémas qu'il y avait jusqu'à présent de la surproduction.
On en met partout au cas où.
Au cas où. Puis en plus, t'arroses tes voisins qui font du bio.
C'est ça. Hein, ils sont très contents parce qu'ils peuvent plus vendre leurs légumes.
C'est sympa. Hein, ouais. Alors, les outils, effectivement, permettent la prise de décision. Donc, on peut s'imaginer qu'avec toutes les données qu'ils récoltent, cela va permettre aux agriculteurs de prendre de meilleures décisions. Encore faut-il que ces données et les préconisations faites suivant les données récoltées ne soient pas servies par certaines entreprises, à savoir que, justement, des entreprises vous proposent des solutions.
Ouais, je vois que là, votre champ, là, ça pousse pas très bien. Là, j'ai une super semence, là, OGM, machin, qui, je suis sûr, marcherait très bien dans votre champ.
Ouais. Donc, justement, le fait de récolter les données des agriculteurs par ces entreprises est aussi quelque part un certain danger, puisqu'on se dit finalement ils proposent une solution pour t'aider, mais en même temps ils te proposent la solution pour aussi te vendre un autre produit à côté. Donc au final on peut être assez méfiant, notamment dans des grandes enseignes comme je ne citerai pas parce que voilà, j'ai pas envie de leur faire de pub.
Ça
ne sortira pas d'internet, comme ils disent. Donc, nous sachons, les données personnelles, de manière générale, peuvent être captées par de grandes entreprises pour être parfois monétisées. Hein ? Non, t'es pas sceptique du tout. Hein. Donc, qu'en est-il des données issues de ces divers objets connectés ? La récolte d'année en année a bien sûr un intérêt pour les agriculteurs. Ils pourront aussi affiner et optimiser pour jongler avec le principe pour ne pas appauvrir davantage les sols. On le sait tous, les schémas de surproduction à l'heure actuelle n'ont plus de sens, même si l'agriculteur étant très au fait de certaines données, comme le cours de la bourse, la météo, la pollution et le principe d'une agriculture faite de manière raisonnée a pris vraiment le pas par rapport aux méthodes industrielles jusqu'alors appliquées. Donc récolter les données n'a pas non plus de sens si la pertinence des données n'est pas efficace. Donc autant dire que si tu achètes des objets connectés qui vont te donner des indicateurs, mais en fait ces indicateurs n'ont vraiment aucun impact final, à part te coûter très cher.
T'as des tonnes de données, mais si tu ne sais pas quoi chercher dedans...
C'est ça, le tout, c'est que ça soit pertinent pour l'agriculteur. Et que ça t'impose pas aussi une manière de produire. Il y a aussi le principe de communauté, comme celle dans les logiciels libres, qui serait intéressant à développer et qui serait une meilleure réponse justement pour permettre l'indépendance dans la récolte des données. Et ça permettrait aussi à la communauté de bénéficier justement de ce retour d'expérience de chaque exploitation. Encore faut-il que les exploitations communiquent entre elles.
C'est pas toujours évident. La culture n'est pas forcément prête à ça.
Et l'une des conséquences aussi par rapport à la géolocalisation avec GPS, c'est qu'on améliore grandement le rendement par unité de surface. Et puis ça aussi, ça peut baisser aussi la charge mentale des agriculteurs, parce que voilà, si ton champ il se fait tout seul, ça te fait ça au moins. Alors il y a aussi les intelligences artificielles qui sont au service du désherbage. Et oui, quand tu te rends compte que au niveau d'Internet, lorsque tu as des images à reconnaître, genre « reconnais-moi les feux de rouge là qui sont sur ton image », eh bien les IA aussi peuvent travailler au service des agriculteurs, puisqu'elles pourront reconnaître en photo...
Mais ça, c'était une mauvaise herbe. Non, c'était mes oreilles.
Donc il craque et ça te découpe. Crac.
Aïe.
Et donc le fait que les IA peuvent travailler au service des agriculteurs, c'est quand même intéressant de savoir qu'elles pourront reconnaître les mauvaises herbes et les couper par la suite avec la robotisation. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Après, il y a le coût de ces technologies qui sont quand même assez importantes. Hein. On peut s'imaginer quand même que après l'assistance chimique dans le domaine agricole qui a été souvent décriée par le fait qu'il y ait eu des études très monopolistiques de certaines grandes entreprises que je ne citerai toujours pas parce que j'ai pas envie de leur faire de pub. Ouais.
Et du coup, il faudrait éviter la même chose avec le numérique.
Il faudrait éviter la même chose au numérique. Il faudrait que justement ça permette aux gens qui sont dans des situations un peu fragiles de pouvoir bénéficier de ces services sous des meilleures conditions. Il faut savoir que les drones aussi, c'est quand même moins cher que les solutions satellitaires.
Ou l'hélicoptère, c'est pas donné non plus.
Aussi, l'hélicoptère, c'est quand même pas mal. Alors, bien sûr, hein, les IoT ont leurs failles. Et certains hackers pourraient profiter de justement le fait que ça soit ouvert pour aller gratter dedans. On pourrait s'imaginer, comme tu m'avais évoqué tout à l'heure.
Ah, elle est sympa cette caméra. Oh, il n'y a personne dans le champ, je peux aller piquer des fruits.
Ah oui, c'est bizarre, hein. Oui. Ouais. Et tu avais vu quelque chose dans la bataille du Libre, d'ailleurs, en rapport avec ça.
Il y a des gens qui partagent des semences entre eux aussi. Il y a le mouvement du libre sur les graines.
Des clubs échangistes.
Des clubs échangistes de graines.
Oh.
Et puis sur les tracteurs, effectivement, il y a plusieurs fabricants qui mettent des DRM, mais il y a des gens qui les contournent pouvoir réparer leur matériel. Quoi.
Oui, bien sûr, parce que les systèmes embarqués sont aussi verrouillés par les constructeurs, ce qui rend impossible la maintenance des outils directement par les utilisateurs, entre autres les agriculteurs. Donc s'ils sont en plus, déjà à l'achat c'est très cher, mais si en plus ils ne peuvent pas maintenir leurs outils et qu'ils doivent passer spécifiquement à la caisse à chaque fois qu'ils veulent faire réparer, là ça devient problématique quand même.
Alors à l'opposé, il y a des logiciels libres aussi pour les agriculteurs, ça existe, il y a notamment Crop, Q-R-O-P, qui permet de gérer ses plantations, je crois.
Crop est un logiciel libre de planification et de suivi des cultures en maraîchage.
C'est cool.
Donc voilà, il y a même des logiciels libres qui se sont mis. Et je pense qu'effectivement, à l'instar des communautés de logiciels libres, je pense que les coopératives seraient aussi capables de pouvoir proposer ce genre de solution où les gens peuvent s'échanger leurs données, finalement. Ce serait pas mal.
Et ouais. Merci Cécile.
De rien. Plus de liens sur notre blog AAA.fr pour découvrir des tas de choses parce que c'est vraiment un sujet passionnant. Ouais. Je n'ai fait que poser mon doigt sur le sujet et vraiment il y a vraiment beaucoup de choses à creuser puisqu'on est vraiment dans les balbutiements de ces nouveautés dans l'agriculture.
Une petite pause.
Petite pause. On se retrouve pour l'agenda tout de suite après. Dynatron Pulse Power, encore un peu de Synthwave, parce que j'aime bien.
Tu as raison. Si je remets pas mon micro à moi, ça marche pas.
3 heures plus tard. Allez, on passe à l'agenda ?
Ouais.
Rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors des rediffusions le samedi.
Atelier d'autodéfense numérique. Est-il possible de naviguer sur le web sans laisser de traces ? Peut-on habiter les plateformes numériques sans être à la merci d'entreprises qui exploitent nos données personnelles ? Comment retrouver la puissance d'agir et de l'autonomie face à des outils qui semblent nous échapper ? Se défendre est aujourd'hui un prérequis à une pratique responsable du web et des outils numériques. Participez à un moment d'échange et d'exercice imaginé à partir du guide d'autodéfense numérique édité par les éditions Tahin Party à Lyon. Non, c'est comme ça, j'ai bien prononcé.
Je ne sais pas.
Tu ne sais pas. Donc voilà, le mardi 17 décembre 2019, de 17h à 19h, de bibliothèque Jean Massé de rue d'Homère à Lyon.
Apéro projet au 8 Fab Lab, transport de larves en guêpe en drone. Ah bah tiens, pourquoi pas. Bugs de céramique, dépose de graines de courge sur des tartelettes. Quel point commun pour ces échanges intitulés. Venez découvrir les projets des usagers du Fab Lab lors de l'apéro projet. C'est jeudi 19 décembre de 18h à 21h au 8 Fab Lab, 8 rue Courcomer à Cré.
Soirée libre G3L, venez avec vos questions sur Nginx et les logiciels libres le vendredi.
C'est Nginx.
Et les logiciels libres le vendredi 20 décembre de 19h30 à 22h30 à la MJC Château Vert.
Animation pédagogique, découvrir la création en réalité virtuelle. La réalité virtuelle est une technologie qui permet de plonger une personne dans un monde artificiel créé numériquement. L'immersion se fait au moyen d'un casque de réalité virtuelle qui place un système d'affichage 3D stéréoscopique devant les yeux. Des capteurs détectent les mouvements de la tête, des mains et de sa position sur la zone de jeu et donc modifient l'image qu'on voit à travers le casque. Donc c'est très immersif. Cette technologie se trouve particulièrement sa place au 8 Fab Lab lorsqu'elle est prise en main par des sculpteurs traditionnels qui souhaitent ouvrir de nouveaux horizons à la création. Leurs pratiques s'en trouvent augmentées à mesure qu'ils explorent d'autres manières de sculpter sur un logiciel dédié. Et ensuite, donc, ils ont les imprimantes 3D, etc. Et tout ceci est en démonstration au Centre d'Art de Cré, place du Champ de Mars, à Cré. Et ce sera le samedi 21 décembre de 15h à 17h.
On frotte la boule. Gamer, j'attends le prochain DLC pour la suite. J'espère qu'il ne sera pas coûteux.
Makune, avant les iPads, après les EHPAD.
Technophile, quand une poule pond un œuf, elle le compresse avec quel codec ? Le code 3, oui, le code codec !
Atariste, j'ai mis mon pantalon DIM avant de connecter la DIN dans l'Atari.
Microsoft, l'agent Win007 va mourir.
YouTuber, elle est contente, Heidi, elle a vu sa vidéo.
Ouais, contente, Heidi.
Ah oui, contente, Heidi. Oh là 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 là,
bah oui, mais...
J'ai pas compris.
T'avais pas compris, bah oui, mais c'est parce que moi j'entends des gens...
Allez, on retourne dans le champ, tu connais tes bottes.
Quand t'entends des gens parler anglais, ça fait bizarre, et tu dis, ah oui, elle est marrante, celle-là, je la garde.
Et maintenant, je sache.
Maintenant, tu saches.
Nous sachons.
Et vous sachez.
Merci, auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission dans laquelle on va développer un virtuel...
On va parler de musique, ouais, VHT, tout ça, un sujet de Matt Bell.
Bah oui. À très bientôt.
Bye bye.
Bye bye.